Bonjour.
Bonjour.
La laïcité, c'est quoi ?
Alors, c'est que dans un pays, il ne faut pas montrer, enfin, il faut pas avoir de signe ostentatoire de la religion, il faut que ce soit un pays où vraiment il n'y a pas de signe vraiment distinctif d'une appartenance à une religion.
Que pensez-vous de la laïcité ?
Ah, c'est important quand même, parce qu'après, ça évite les conflits, parce qu'on n'a pas tous les mêmes manières de penser, donc ça peut éviter les conflits.
Le mot laïcité, pour vous, ça rime quoi ?
Ça rime avec quoi ? Pas comme l'expliquait Adrien, c'est pas de montrer de signes extérieurs d'appartenance à une religion. Donc moi je pense que ça fait partie quand même d'une notion de vivre ensemble. Voilà, c'est vraiment la notion pour moi la plus importante.
Merci. Nous, élèves de 4e, souhaitons préciser que les signes ostentatoires sont des symboles que l'on affiche en lien avec nos croyances. Ils sont interdits à l'école depuis la loi de 2004.
Laïcité !
Bonjour.
Bonjour.
Pour vous, c'est quoi la laïcité ?
Alors, c'est déjà un vaste domaine. C'est une question qui est très, très à la mode aujourd'hui. Pour moi, la laïcité, c'est une notion qui va toucher tout le domaine religieux et surtout réfléchir sur comment laisser les personnes avoir leur propre religion sans pour autant la mettre en avant sur la place publique, quoi. Voilà. Donc, en fait, la laïcité, ça va consister à respecter ce que sont les autres, sans mettre en avant ou s'afficher soi-même et imposer ce que l'on est.
Merci. Que pensez-vous de la laïcité ?
C'est un devoir, je pense.
Donnez-nous un mot-clé en lien avec la laïcité.
La tolérance.
Nous, élèves de 4e, souhaitons affirmer que la laïcité, c'est un principe de tolérance qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire et d'exprimer ses convictions religieuses, dans le respect de la loi et des autres, y compris dans les espaces publics.
Laïcité !
Bonjour.
C'est quoi la laïcité ?
La laïcité, c'est tout le monde qui est au même niveau. Les noirs comme les blancs. Les religions, c'est... On n'a pas le droit de les mettre dans les lieux publics, tout ça.
Que pensez-vous de la laïcité ?
Je pense de la laïcité que c'est bien qu'elle est là. Parce que s'il n'y aurait pas de laïcité, tout le monde viendrait avec leur signe religieux dans les lieux publics, tout ça. Et qu'il y en a, ils n'aiment pas forcément ça. Alors je trouve que c'est bien qu'elle soit là.
Merci. Donnez-nous un mot-clé en lien avec la laïcité.
Laïcité égale école, respect, égalité.
Merci.
Nous, élèves de 4e, souhaitons préciser que la laïcité ne lutte pas contre toutes les discriminations, mais c'est un principe qui garantit la liberté de conscience et l'égalité face à la loi dans ce domaine.
Laïcité !
Bonjour.
Bonjour.
Pour vous, la laïcité, c'est quoi ?
La laïcité revêt beaucoup de nombreux mots qui sont inscrits au fronton de l'établissement. Respect aussi, liberté, égalité, fraternité. Donc, ce sont des mots bien sans souvenir. À chaque fois qu'on rentre dans un lieu, ici un lieu qui est aussi public et d'éducation. Donc on s'en rappelle et c'est ce que je vous ai dit à la rentrée, le respect des uns des autres, c'est vraiment très important dans notre relation de tous les jours.
Que pensez-vous de la laïcité ?
Alors la laïcité, elle est très très importante aujourd'hui dans les valeurs de la République. On a connu aujourd'hui ces dernières années des violences. Elle nous rappelle donc les valeurs de la République que l'on doit respecter.
Donnez-nous un mot clé en lien avec la laïcité.
Je pense le respect, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le respect.
Merci.
Merci Madame Royer.
Merci jeunes gens.
Nous, élèves de 4e, souhaitons rappeler que face aux violences terroristes, la France réaffirme les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et ses principes parmi lesquels la laïcité.
École, devoir,
tolérance,
respect,
liberté,
égalité,
fraternité,
vivre ensemble,
loi,
principe,
religion,
symbole,
laïcité,
école,
devoir,
tolérance,
respect,
liberté,
égalité,
fraternité,
vivre ensemble,
loi,
principe,
religion,
symbole,
laïcité.
Nous avons en français une expression intéressante, être médusé par quelque chose, par quelqu'un. Pour comprendre le sens de cette expression, nous nous sommes intéressés au mot méduse, mais sans avoir le lien tout de suite avec l'expression. Par contre, si on ouvre la recherche au nom propre, on apprend que Méduse était un personnage de la mythologie grecque, connu pour sa capacité à pétrifier du regard toute personne qui osait la fixer.
L'expression « être médusé » aujourd'hui signifie donc que la personne qui est dans cet état se trouve pétrifiée, immobilisée, d'étonnement, de surprise, peut-être même de terreur, par ce qu'elle a osé regarder, fixer.
Nous avons travaillé sur les harpies. Les harpies sont des monstres à tête de femme et à corps de vautour, avec des griffes acérées. Ce sont des femmes méchantes et acariâtres. C'étaient des ravisseuses d'enfants et d'âmes. Dans la mythologie gréco-romaine, les harpies sont les filles de Thomas et d'Électre.
Dans l'Odyssée, on rendait les harpies responsables de toutes les disparitions. On utilise toujours le mot harpie, dans la langue française contemporaine. Et en lien avec ces personnages, ce mot signifie que l'on parle d'une femme méchante capable de faire beaucoup de mal.
Nous nous sommes intéressés au mythe d'Œdipe et aux caractéristiques de ce personnage.
Œdipe, pour la mythologie grecque, est le roi de Thèbes, fils de Laios et de Jocaste, roi et reine de Thèbes.
Le mythe raconte que Œdipe un jour tuera son père et épousera sa mère. Prophétie se concrétise. Œdipe finit par épouser sa mère dont il aura 4 enfants.
Le complexe d'Œdipe, concept utilisé en psychologie, signifie donc le fait pour un garçon d'éprouver du désir pour sa mère.
Bonjour, nous sommes la classe de BTS Axe 2e année. Nous venons d'effectuer un travail sur l'exploitation de messieurs Vial, Patrick et Jean-Dominique Duclerchu, et ils vont peut-être nous partager les impressions à l'issue de ce travail effectué sur leur ferme.
Oui, bonjour, donc Vial, Patrick. Un gros travail fourni par les élèves de BTS, par le nombre de projets, les calculs qu'il a fallu faire pour au bout du compte se rendre compte que différents projets sont possibles. Rien n'est fermé. En fait, c'est un choix à faire de notre part sur des affinités d'élevage, de production. Voilà.
Donc oui, comme je disais, en élève BTS Axe 2e année à Mirecourt, voilà, donc on a appris quand même avec cette visite chez monsieur Vial des connaissances techniques. On a approfondi sur le temps de travail qui est important sur une exploitation, l'efficacité économique. Ça nous a permis aussi de nous projeter, nous, pour notre futur professionnel et par la suite aussi notre projet qui est dans la plupart dans la classe de s'installer après le BTS.
Merci.
Bonjour, nous sommes en présence de Vassilena Serafimova. Les concerts de poche commencent au lycée agricole. C'est un élève de 4e qui va venir donc interviewer l'artiste.
Merci bien. Bonjour, vous êtes percussionniste. Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, c'est Ivan. Moi, je m'appelle Vassilena. Et donc, effectivement, je suis percussionniste. Avant tout, je suis musicienne. Donc, du coup, j'ai commencé à faire de la musique. Quand j'étais toute jeune, j'avais, je crois, 5 ans que j'ai commencé le violon, le solfège, et les disciplines, le chant aussi. Et c'est un peu plus tard que j'ai commencé les percussions. C'est à l'âge de 7 ans. Et j'ai pas une histoire très, très, très originale parce qu'en fait, mes parents, ils étaient musiciens. Donc, du coup, c'était assez facile de s'y mettre dans la musique parce qu'il en avait partout autour de moi, des instruments, des gens qui jouaient, qui chantaient. Voilà, ça faisait vraiment partie de mon quotidien. Et aujourd'hui, j'ai vis en France depuis 11 ou 12 ans maintenant. J'ai fini plusieurs écoles ici, à un conservatoire à Versailles. Et puis après, à Paris. Et maintenant, j'enseigne moi-même et je joue beaucoup de percussions. Donc, tout ce qui ça comporte. Vous avez déjà vu aujourd'hui, ce matin, il y avait du marimba, il y avait des bongos, il y avait des maracas, il y avait un peu des instruments de tout genre.
Vous jouez de quel instrument ?
Justement, tu m'as demandé si j'étais percussionniste. Je viens de te citer aussi quelques instruments. Je joue de tout ça. Je joue du marimba, du xylophone, du vibraphone. Je joue des timbales, des caisses claires, des bongos, des congas. Il y en a plein, 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 comme on a dit. Toi, tu te souviens aussi combien de percussions il y en avait ?
Moi, je m'en souviens qu'il y avait des centaines, même des milliers d'instruments qu'on pouvait utiliser même dans notre propre quotidien.
Exactement. Donc, tu as tout compris. Donc, il y en a plein, plein, plein de percussions. Évidemment, je maîtrise pas tous ces instruments-là, mais j'essaie d'apprendre tout le temps, et voilà, c'est comme ça que je construis mon instrumentarium à moi.
Qu'allez-vous nous faire découvrir à travers ce travail de création musicale ?
Que j'essaie de faire découvrir, mais je suis pas seule, parce que je vois juste à côté de moi, il y a Kanta Camus qui va venir plusieurs fois travailler avec vous, il y a Aurélie des concerts de poche, il y aura Sébastien, un comédien qui viendra. En fait, il y a votre professeur de français aussi qui travaillera avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de vous faire découvrir ? C'est surtout que nous, en tant que percussionnistes, on a envie de vous montrer que tous les objets qui nous entourent peuvent être transformés, métamorphosés et devenir des objets de musique, tout simplement. Mais aussi, surtout, ce qu'on a envie de vous faire travailler, c'est votre imaginaire, votre monde intérieur, de le sortir, d'essayer de le mettre en mouvement, en création et vous faire sentir que vous-même, vous êtes acteur de la création d'aujourd'hui et qu'en fait, vous pouvez participer dans un concert, vous allez faire la première partie de notre concert et puis être vous-même des comédiens, des musiciens, des percussionnistes aussi.
Pouvez-vous nous faire comprendre qu'est-ce qu'est un concert de poche ?
Qu'est-ce qu'un concert de poche ? C'est un concert de très grande qualité car ils font appel des artistes mondialement connus dans des grandes salles de concert. Mais justement, le concert de poche amène ces artistes-là qui sont parfois inaccessibles chez vous, le plus près de chez vous, dans des petits villages, dans des petites villes, dans des salles de fête, dans des endroits, dans un lycée, dans des endroits où on ne pense pas pouvoir les rencontrer. Et justement, les concerts de poche ont pour but d'amener cette musique-là, la grande musique classique, au plus près de chacun et chacune. Car ils partent d'idée que la musique, c'est une manière de partager des émotions, c'est une manière de vivre des moments forts ensemble. C'est un peu ce qui s'est passé ce matin avec vous. L'atelier qui précède le concert de poche, en fait, ça, c'est quelque chose que chaque concert de poche organisé a des ateliers. Et en fait, il y en a plus que 100 concerts de poche par an. Donc, imaginez le nombre d'ateliers qu'ils organisent et ils font partout en France. Donc voilà, c'est ça le concert de poche.
Comment vous vous êtes fait connaître ?
Moi, j'ai commencé donc toute jeune, à 5-6 ans. Donc au début, je ne travaillais pas des heures, mais je faisais une heure par jour, par exemple. Mais plus tard, ça m'est arrivé de faire 12 heures par jour. Donc c'est se réveiller, commencer à travailler son instrument toute la journée et se coucher après. Donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et après, surtout, j'ai participé à beaucoup de concours. J'ai fait des concours internationaux où on s'est rencontré avec d'autres musiciens du monde entier et il y avait un classement comme n'importe quel concours et j'ai eu la chance d'être souvent dans les gagnants de ces concours-là. Les gens, ils ont commencé à entendre mon prénom, à se dire « Ah, mais elle a déjà fait le concours à Stuttgart, ah, elle a déjà fait le concours de Munich, elle a fait déjà un concours en Pays-Bas, elle a gagné ce prix-là, elle a gagné ce prix-là. » Donc les gens, ils ont commencé à parler de moi. Et après, il y a ceux qui organisent les concerts, qui regardent qui a gagné déjà des concours et qui disent « Ah, mais si, gagner un concours, c'est que forcément, il joue ou elle joue bien. Donc, on va la demander de venir faire des concerts. Et après, j'ai commencé à donner des concerts, de plus en plus de concerts. Souvent, un concert amenait un autre. Et une rencontre amenait une autre rencontre. Donc, du coup, c'est comme ça que petit à petit, j'ai fait ma carrière et j'ai continué à faire, en fait. C'est d'abord le travail, après les concours, après les concerts. Et après, les rencontres qui vont avec les concerts.
Au niveau des concerts, êtes-vous national ou international ?
Je suis international. Déjà, par ma présence en France, je suis international d'emblée. Parce qu'en fait, je viens de la Bulgarie. Donc déjà, j'ai fait ma vie et mon métier de musicienne à l'étranger. Mais je suis effectivement toujours sur les routes. Pas seulement en France, mais beaucoup à l'étranger. Pour te donner un petit exemple, là, depuis septembre, j'ai été en Grèce, j'étais en Mexique, j'étais en Bulgarie, j'étais en Italie. Je pars bientôt en Russie. Après, je vais en Allemagne. Et après, je retourne en Bulgarie. Donc, en quelques mois, j'ai fait environ 7 pays.
Merci. À quelle date aura le concert ?
Le concert aura lieu le 13 décembre. Et ça va être en compagnie d'un merveilleux quatuor à cordes qui s'appelle le quatuor Hermès, qui vont nous faire le plaisir et la joie de venir jouer ici à Mirecourt. On va vous préparer un programme à la fois classique, à la fois ludique. Il y aura votre première partie. Et voilà, j'ai hâte d'être de retour ici.
Merci. C'était Sylvain, élève de 4e du lycée agricole de Mirecourt.
Jupiter est un dieu romain et il est le roi des dieux à Rome. Il a donc énormément de pouvoir. En français, nous avons une expression qui est « être sorti de la cuisse de Jupiter ». Comment l'interpréter ? Cette expression signifie que si l'on se croit sorti de la cuisse du roi des dieux, c'est que l'on se sent supérieur aux autres et que l'on est très orgueilleux.
Nous allons vous présenter l'histoire de l'expression « être riche comme Crésus ». Crésus est un personnage mythologique qui se situait dans l'Antiquité. Il était connu car il était le premier milliardaire de tous les temps. Il a même offert 117 lingots d'or et un lion de 250 kilos au sanctuaire d'Apollon.
L'expression « être riche comme Crésus » signifie posséder une immense fortune. Elle permet de se rapprocher de l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur ». En effet, Crésus pensait être heureux parce qu'il était riche. Donc les dieux ont décidé de le punir en tuant son fils dans un accident de chasse. Il s'est donc rendu compte que même si l'on était riche, on pouvait être malheureux.
Vous connaissez tous l'expression « prendre le taureau par les cornes ». Mais savez-vous qu'elle vient du personnage mythologique Hercule ? Nous allons vous présenter Hercule pour vous aider à comprendre le lien entre les deux et le sens de cette expression.
Hercule est un demi-dieu de la mythologie romaine, fils de Zeus et d'une mortelle. C'est le demi-dieu qui est le plus fort et le plus grand. Il a pour défi de réaliser les 12 travaux donnés par l'oracle de Delphes, qu'il réussit avec gloire.
De nos jours, Hercule est lié à l'expression « prendre le taureau par les cornes ». En effet, la 7e tâche qu'il avait à accomplir au cours des 12 travaux était de dompter le taureau de l'île de Crète. Il réussit à le faire sans difficulté majeure et surtout, il n'a pas hésité à accomplir cette tâche malgré son ampleur. D'où l'expression en français « prendre le taureau par les cornes » qui signifie ne pas reculer devant une situation difficile et l'affronter courageusement.
Poséidon est un dieu grec de la mer et des éléments liquides en général. C'est un des 3 maîtres de l'univers. Il a le pouvoir de déchaîner les éléments. L'expression que nous avons cherché à comprendre est « s'attirer les foudres de quelqu'un ». Comme Poséidon, chacun d'entre nous est capable de puissance même si on n'apaise pas les tempêtes et les orages, qu'on ne provoque pas les tremblements de terre et qu'on ne fait pas jaillir des sources.
Nous sommes capables de dépenser beaucoup d'énergie, ce qui reprend l'image de la foudre pour nous venger de quelqu'un. On s'attire les foudres de quelqu'un quand on nous en veut et quand on réagit vivement contre nous.
Bonjour, nous sommes à Mirecourt, en compagnie de Roger Ngoma, écrivain et conférencier qui a eu la gentillesse de répondre à l'invitation des élèves de 4e du lycée agricole et forestier de Mirecourt. Monsieur Ngoma, merci d'être venu nous rencontrer et d'avoir accepté de venir en résidence au sein de notre établissement à partir du 1er avril. Que pouvez-vous nous dire de votre métier d'écrivain ?
Alors bonjour à vous et merci de me recevoir au sein de votre établissement. Il est vrai que j'écris en fonction de différentes choses, ma vie, mes origines. Il est vrai que mon père était médecin. Bon, la médecine a été une vocation pour moi, mais voilà, j'ai toujours été entre deux continents, l'Afrique, l'Europe, puisque je vis actuellement à Montpellier.
Où êtes-vous né ? Vous avez un accent, mais vous parlez très bien français.
Je suis né à Dakar en 1971. J'ai fait mes études à Montpellier, ce qui explique peut-être ma maîtrise de la langue, mais on n'est jamais à ce niveau-là. On a toujours à progresser. Et puis en tant que médecin, surtout humanitaire, car je suis membre de Médecins Sans Frontières, je voyage beaucoup, je suis amené à rencontrer diverses populations, diverses confrères, et donc on parle plusieurs langues dans ce cadre-là.
Nous savons que vous avez reçu le prix de la francophonie en 2006. Quelle signification cela a-t-il pour vous ?
Donc la signification pour moi de ce prix, c'est surtout la reconnaissance que l'écriture peut servir certaines causes. La longue marche des Africains, des 3 Africains, c'est l'histoire de 3 frères, Bienvenue, Antoine, Marcel, qui quittent la République du Congo pour des raisons politiques. Et la migration, c'est vraiment l'un des problèmes de l'Afrique aujourd'hui. Et je pense que l'écriture permet de donner une autre approche à ces problèmes-là, car c'est vrai que l'actualité est riche sur ce sujet, mais l'écriture peut amener à quelque chose de différent et donner envie à certaines personnes de s'engager.
Et depuis, vous avez écrit combien de livres ? N'y a-t-il que des romans ?
Alors j'ai écrit en tout 9 ouvrages. J'ai surtout écrit depuis 2006 un recueil de poèmes qui est apparu en 2011, qui s'appelle donc « Les fleurs de sable ». Vous avez la gentillesse de me parler de ma bibliographie. C'est vrai que j'ai entre 92 et aujourd'hui, j'ai écrit 9 ouvrages, dont 4 romans. Et donc dernièrement, Les fleurs de sable dont nous allons parler, je pense.
Vous pouvez nous parler de votre dernier livre, Les fleurs de sable.
Alors Les fleurs de sable, ce sont des poèmes. Pour moi, c'est un recueil sur l'engagement. Il y a des causes importantes qui traversent tout cet ouvrage. Et je pense qu'on peut mettre l'écriture au service de ces causes-là. Alors je parle un petit peu de la lutte contre la déforestation. Je parle de l'accès à l'eau potable, qui est un problème ô combien important en Afrique aujourd'hui. Je parle aussi de la préservation des espèces menacées. Alors il est vrai que c'est de la poésie, donc des fois ça peut paraître un petit peu abstrait, mais j'invite en tout cas les élèves à découvrir cet ouvrage. Je pense qu'il sera disponible bientôt.
Nous vous remercions du temps que vous nous avez accordé. Nous invitons tous nos auditeurs à découvrir Les fleurs de sable. Le recueil sera disponible au CDI à partir du 1er avril. Bonne journée. Thank you.
Bonjour Anne-Marie Claudel, vous êtes coordinatrice à l'association, pour l'association Place au jeu et vous intervenez aujourd'hui dans la classe de BTS GF et AXE et on voudrait vous poser quelques questions. Alors la première question, quels sont les objectifs de votre association ?
Notre association a été créée en 2008 avec pour objectif premier de faire découvrir le jeu de société, en fait la diversité et la richesse du jeu de société moderne, on va dire. On connaît tous les 20-30 jeux qu'on voit un peu partout dans la grande distribution, mais il existe des dizaines de milliers d'autres jeux, donc je ne dirais pas forcément plus intéressants, mais beaucoup plus variés, et donc le grand public ne le connaît pas. Notre objectif est de le faire découvrir.
Quoi le jeu contribue-t-il à la sociabilisation lorsque vous intervenez ?
Quand on intervient, on a évidemment tout l'aspect ludique, l'aspect convivialité, rencontre, échange, qui est le primordial en fait, pour notre association. Mais en plus de la convivialité, on a des aspects comme le fait de respecter les règles du jeu, de respecter le matériel du jeu, d'apprendre à passer son tour, à respecter en fait, toutes ces règles du jeu permet aussi de dire on ne fait pas n'importe quoi le jeu, il y a des règles, on les respecte. Donc pour des enfants, c'est assez intéressant de finalement, par le biais du jeu, tout en jouant, d'accepter de perdre, d'accepter de passer son tour. Voilà.
Est-ce que vous pourrez nous donner rapidement les lieux auxquels vous intervenez et est-ce qu'il y a un résultat positif qui est donné par les responsables des lieux ?
Pour nos interventions, résultat positif, on ne va pas quantifier en positif sur le jeu. Après, sur la satisfaction du public, on le voit, de passer un moment ensemble, en convivialité, à jouer, on voit que ça rassemble les gens. Donc forcément, il y a de la cohésion qui se crée, de la communication qui passe entre les joueurs. C'est forcément tout de suite intéressant. Alors là, souvent, quand on anime, on a l'année suivante, les structures nous font revenir pour animer donc une nouvelle fois chez eux. Donc on pense qu'effectivement, en termes de résultats, oui, on peut dire qu'il y en a. On intervient aussi autant dans les établissements scolaires que dans des communes, communautés de communes, pour des associations, dans des structures particulières comme en maison d'arrêt ou dans des IME. Enfin, c'est très très varié en fonction de la demande et d'un projet en particulier. On nous demande une animation jeu et donc on va se déplacer avec nos jeux et nos animateurs un petit peu partout avec un choix de jeu qui n'est jamais le même en fait, qui va être adapté au public et au lieu là où on va animer. Et donc on essaie de faire au mieux pour que le public passe un bon moment, puisse découvrir des jeux, puisse aussi découvrir des mécanismes, faire du jeu d'adresse. Voilà, des jeux de communication, des jeux de rapidité, d'observation, enfin un petit peu tout ça, voir un peu la diversité de ces jeux, passer un bon moment, et puis communiquer entre eux et repartir peut-être plus fort d'avoir partagé un moment ensemble.
Vous avez entendu parler de jeux de communication. Est-ce que vous pouvez rapidement en parler ? Quel est l'intérêt de ce jeu et son efficacité pour un groupe ou une équipe ?
Alors, de jeux de communication, de jeux de coopération. Coopération ou jeux coopératifs. L'idée, c'est qu'au lieu de jouer l'un contre l'autre, en fait, on va jouer ensemble. Les joueurs vont jouer ensemble, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Finalement, les joueurs vont jouer contre le jeu. Alors, il en existe pour les enfants, peut-être le plus connu, ce serait le jeu du verger, où il faut que tous les enfants récoltent ensemble différents fruits des quatre arbres, avant que le corbeau soit reconstitué au niveau du puzzle, ça un petit peu, tout le monde connaît ce jeu. Il en existe des jeux de coopération pour tous les âges, ados, enfants, adultes également. Et donc l'intérêt est de pouvoir jouer ensemble et créer la cohésion entre joueurs, plutôt s'entraider, plutôt que d'être dans la compétition. Et ça, je pense qu'au niveau du vivre en société, c'est un petit plus, c'est ça apporte. En tout cas, un petit plus qui n'existe pas forcément dans le sport ou dans d'autres activités culturelles ou de loisirs.
Parler d'une grande variété de jeux et j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut trouver ces jeux pour que de futures personnes puissent les trouver et avoir une plus grande possibilité de jeux et d'amusement.
Alors, pour trouver ces jeux, on peut déjà aller les découvrir dans des ludothèques. Il y en a un petit peu partout sur le territoire. Elles ont chacune leur spécificité, jeux uniquement enfants ou parfois avec des jeux plus pour les ados et les adultes. Dans les ludothèques, on peut aller les découvrir, les tester, mais on peut souvent les louer. Ça, c'est une première chose. Après, dans les jeux peut-être plus modernes, il y a des boutiques spécialisées. Il en existe de plus en plus, pas très loin d'Épinal. Donc, il y a Lutin-Malin Épinal. Il y en a deux également à Nancy. Il y en a Strasbourg à Dijon, donc dans des grandes villes en général. Donc, des boutiques vraiment spécialisées du jeu, qui ne sont pas des grandes enseignes de jeux, mais qui vont vraiment pouvoir avoir des vendeurs ou des animateurs sur place, qui vont aussi pouvoir conseiller le public par rapport au choix de jeu qu'ils voudraient faire. Et leur les aiguiller en disant par rapport à ce que vous cherchez, tel type de jeu pourrait bien correspondre à ce que vous cherchez.
D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. C'était Alexandre en direct du lycée agricole de Mirecourt.